Après une matinée de représentations passionnantes posant sur la philosophie de l'habitat, l'histoire des logements au 19e et la première moitié du 20e siècle, nous passons maintenant à la période après la Seconde Guerre mondiale. Cet après-midi, nous commençons avec l'intervention de Jeanne. Jeanne est actuellement en deuxième année de thèse en co-tutelle en études germaniques et en études cinématographiques entre la Sorbonne et la Goethe-Université de Francfort. Elle a étudié les études germaniques à Ernest de Lyon, où elle a également passé l'agrégation d'allemand. Elle a ensuite fait un lectorat de romanistique à l'Université de Francfort, où elle a également fait un master de cinéma. Elle travaille actuellement sur la représentation de la modernité architecturale à Paris, Berlin et dans leur banlieue au cinéma des années 60 aux années 80.
Merci. Aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur deux films de deux réalisatrices ouest-allemandes. Donc les films, c'est Ich denke oft an Hawaii de Elfie Mikesch à gauche et Der gekaufte Traum de Elgar Reidemeister à droite. Tous deux prenant pour objet la vie d'une femme d'une quarantaine d'années, mère de famille, sans mari, issue de la classe ouvrière qui habite dans une cité nouvelle en périphérie de Berlin dans les années 70. Les deux réalisatrices veulent montrer comment on habite une cité nouvelle dans les années 70 en se focalisant sur la vie quotidienne de ces femmes et en les filmant dans leur intimité. Les deux cités où habitent ces femmes, la Gropiusstadt et le Märkisches Viertel, donc sur la carte, elles sont situées à Berlin, font partie des très grands projets architecturaux ouest-allemands des années 60-70, construits en périphérie. Elles sont construites selon un urbanisme rationnel, préfabriqué et en série, composé de grands ensembles, Plattenbauten en allemand, ainsi que de rangées d'immeubles bas, Reihenhäuser. Elles doivent loger rapidement un grand nombre de personnes. Au moment de leur construction, dans les discours politiques, ces cités représentent la modernité, la ville du futur, à l'opposé de la ville ancienne des Mietskasernen, dont tu parlais tout à l'heure, donc les casernes à loyer du centre de Berlin, que le gouvernement détruit en masse à ce moment-là, dans les années 60. Et les habitants délogés du centre de Berlin sont relogés dans les cités. Dès la fin des années 60, cependant, elles commencent à être critiquées par leur manque d'infrastructures et leur monotonie. J'aimerais réfléchir à la façon dont le film peut montrer comment on habite ces cités dans les années 70. Le médium du film semble en effet idéal pour réfléchir à la notion d'habiter. Si on retient la définition d'Henri Lefebvre dans sa préface à l'habitat pavillonnaire, l'habité est d'abord un fait anthropologique inhérent à l'être humain. L'habité est aussi constitué par des objets, meubles ou immeubles. La façon d'habiter s'exprime dans le langage parlé, ainsi que dans d'autres langages comme la nourriture, les vêtements ou le langage du corps. Et je pense que le cinéma, justement, est capable de rendre par l'image et par le son tous ces différents éléments. Les deux femmes réalisatrices souhaitent témoigner donc de ce quotidien, toutes deux avec un regard critique. Une critique qui est à la fois une critique proche du marxisme. Elles veulent montrer l'amertume de la classe ouvrière, les raisons pour lesquelles cette dernière se sent rejetée de la société. Une critique qui est également féministe. Toutes deux filment des thèmes jugés jusqu'alors comme non dignes d'être filmés, comme la cuisine ou le ménage, et proposent une réflexion sur des thèmes féministes de l'époque. Donc on se demandera dans ce travail comment Mikesch et Reidemeister tente de donner une voix à des femmes de la classe ouvrière des cités nouvelles en entrant dans l'intimité de leur quotidien avec un regard qui mêle la critique féministe et marxiste. Donc voilà mon plan. Donc des portraits de femmes entre documentaire et fiction, récits critiques de la vie quotidienne et comment sortir du quotidien. Mikesch et Reidemeister, pour faire le portrait de ces femmes habitantes des Plattenbauten et de leur famille et pour donner la parole à des voix inaudibles normalement par leur classe sociale et par leur sexe, adopte des dispositifs originaux que je souhaite rapidement vous exposer. Donc Mikesch connaît la famille qu'elle filme dans Ich denke oft an Hawaii, puisque c'est une famille qui habitait jusqu'à côté d'elle à Kreuzberg, avant de déménager dans la Gropiusstadt, donc Ruth, la mère, Carmen, la fille, et Tito, le fils. Et la réalisatrice se met d'accord pour filmer des séquences de la vie quotidienne de cette famille dans la Gropiusstadt. Mais elle décide aussi en parallèle de mettre en scène les rêves et les aspirations de la mère notamment. Donc quotidien et rêve se rencontrent, on verra dans des exemples, dans une mise en scène très expérimentale qui associe des scènes de théâtre, de danse, un montage haché, des jeux avec couleurs et noir et blanc. C'est un film très mis en scène par rapport au film de Rademeister, plus proche du documentaire, donc c'est le deuxième exemple. Helga Rademeister, elle, est d'abord travailleuse sociale, donc Sozialarbeiterin au Märkisches Viertel, et active dans une association de locataires où elle rencontre beaucoup d'habitants. Elle commence en parallèle des études de cinéma et décide de filmer la vie quotidienne d'une des habitantes donc du quartier, également dans cette association de locataires, Irène Rakowitz, donc la protagoniste du film dont je vais vous parler, qui a 48 ans, qui est mère de famille, divorcée, qui a 4 enfants. Et c'est une femme qui veut être indépendante, qui ne supporte plus le rôle imposé par la société de mère et d'épouse. Le dispositif du film est intéressant également. La réalisatrice filme la mère et les enfants dans des situations du quotidien, à table, pendant la vaisselle, pendant le rangement. Elle leur pose quelques questions dans la forme de l'entretien libre pour les relancer. Et ces questions permettent aux personnages de raconter leur quotidien, leurs souffrances, dans de longues tirades. La particularité, on le verra dans des exemples, c'est le rapport entre la famille et Helga, puisqu'ils se connaissent très bien, ils sont dans une relation de confiance avec la réalisatrice. Ils l'interpellent même pendant le tournage. Et donc, Mikeš et Rademeister souhaitent toutes deux rendre politique le quotidien de ces femmes en mettant en scène des thèmes du quotidien qui ont rarement eu leur place dans des films jusqu'à maintenant. Et si les deux réalisatrices ne se revendiquent pas du mouvement féministe de l'époque, leurs films s'inscrivent dans un contexte de grande prise d'ampleur du féminisme en RFA au début des années 70. On parle de féminisme de la seconde vague qui fait écho à un durcissement patriarcal après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et donc les deux films étudiés mettent en scène différents grands thèmes de la lutte féministe de l'époque, une réflexion sur le travail des femmes, et en particulier une reconnaissance d'un salaire ménager, une réflexion autour de la maternité, mais aussi de l'aliénation de la femme au sein du couple. Tous ces thèmes sont mis en scène à travers une peinture de la vie quotidienne. La peinture du quotidien se fait d'une part par la répétition comme principe esthétique chez Elfie Mikeš, d'autre part par la parole et le récit chez Rademeister. Donc d'abord, donc chez Mikeš, Elfie Mikeš dira dans une interview que l'un des objectifs de son film, c'est de montrer en quoi la répétition et la stagnation dans le quotidien représentent un danger de mort, son Lebensgefährlich. Elle reprend l'idée développée par Henri Lefebvre dans sa critique de la vie quotidienne, pour qui la vie quotidienne répétitive associée à l'aliénation du travail en série est dangereuse. Cette esthétique de la répétition se manifeste dans le film de façon différente. Je vais vous montrer tout de suite 3 petits extraits. Donc un premier extrait. Donc dans cette scène, on observe un enchaînement des deux mêmes plans fixes, donc à 3 reprises, sur la rue où se trouve la maison de la famille et sur la mère qui sort de la maison, avec seule variation d'une image à l'autre, la façon dont elle est habillée. Et cette paire d'images est répétée 3 fois et interrompue par des titres pancartes à chaque fois qui disent cette répétition. Et ces deux plans sont répétés tout au long du film, comme d'autres plans, et notamment un corps sans cesse dans la cuisine ou en train de faire le ménage. Donc je vais vous montrer 2 autres extraits qui montrent bien la répétition du corps dans les mouvements du quotidien. Là, on voit qu'il n'y a plus de son, mais j'en reparle après. Et tout de suite, un troisième extrait qui est à la fin du film cette fois-ci, qui reprend en fait les 2 scènes que je viens de vous montrer. Et on voit vraiment la répétition des mêmes plans. Voilà, donc on a vraiment l'impression que la mère est comme un automate qui reproduit sans cesse dans le film les mêmes mouvements, sans réfléchir. Et la répétition des mêmes cadrages et des mêmes actions, et aussi des mêmes musiques et des mêmes sons, alors ça on s'en rend pas bien compte, mais montre bien cela. L'accumulation de ces répétitions, donc même plan, même action, même son, donne l'impression d'un quotidien en crise, d'une hystérie presque du quotidien, renforcée par quelques éléments de mise en scène, comme une alternance entre, vous l'avez vu, entre plans en couleur et en noir et blanc, parfois même au sein d'une même scène, sans que cela ne réponde à une quelconque logique. Il n'y a aucune logique et on passe du noir et blanc à la couleur. Un autre élément qui témoigne de ce quotidien en crise, c'est le montage jump cut. Donc c'est un moyen très peu utilisé dans les films traditionnels. C'est une transition abrupte entre 2 plans, le résultat du montage de 2 plans côte à côte, centrés sur le même objet, et on a l'impression que la mère disparaît du coup dans les plans. Et un autre élément qui témoigne de cette crise, de cette hystérie du quotidien, c'est l'alternance entre son et silence. Il y a souvent des moments où d'un coup le son disparaît, le son est coupé subitement. Voilà. Et tous ces éléments donc associés à la répétition s'éloignent d'une représentation réaliste du quotidien et donnent au film quelque chose d'absurde, proche de la folie. Freud parle de compulsion de répétition, Wiederholungszwang, comme pulsion de mort, un concept psychanalytique introduit en 1920 dans Au-delà du principe de plaisir. dans lequel il pose que le retour à l'inanimé par la répétition est véhiculé par une pulsion de mort. On peut enfin noter que la parole semble s'être perdue dans ce quotidien répétitif. En effet, la mère ne parle presque jamais dans le film, ou alors elle dit les mêmes phrases en boucle. Dans un article sur le film, Gesine Strempel, une critique, dira que la mère semble ne plus avoir parlé à un adulte depuis longtemps. Lorsqu'elle parle, elle a une voix rouillée, elle s'exprime par des phrases incomplètes. Donc je passe à mon deuxième exemple, donc Elgar Rademeister. Au contraire, dans le film donc, de Rademeister, le film est justement fondé sur la parole et la caméra dévoile le quotidien par la parole. Donc par le son, d'une part, qui révèle la parole, la caméra est comme un catalyseur, cette fois-ci, qui déclenche chez la mère Irène une impressionnante donc, libération de la parole, un dévoilement de soi et de l'intime, par ce moyen de la caméra. Par le son, mais aussi par l'image, donc, l'image dévoile aussi le quotidien, et notamment les corps en mouvement de la famille, donc dans des situations quotidiennes, dans l'appartement ou dans la cité. Je veux vous montrer trois courtes scènes qui partent de scènes du quotidien, donc de vaisselle ou de repassage, dans lesquelles la mère s'ouvre face à la caméra, sur des sujets intimes et tabous à l'époque. Les deux premières scènes sont difficiles émotionnellement par leur sujet, mais aussi par le ton très agressif que prend la mère. La première scène, c'est sur son impuissance à s'occuper de ses enfants. La seconde, sur l'amour maternel et sur le conflit avec une de ses filles.
Es läuft alles nur über Gewalt. Und der Stärkere gewinnt halt, wer sich am besten durchsetzen kann. Das ist ja in der Schule auch so, im Grunde genommen.
Ja, aber du wolltest noch versuchen?
Ich habe es versucht zum Donnerwetter und es geht nicht. Mein Gott, weil ich alleine kann nicht gegen die ganze Welt anrennen. Kapierst du das nicht? Das klappt nicht, das geht nicht. Die ganze Welt ist stärker wie ich alleine. Mach mal was. Die ganze Welt ist stärker. Und die ganze Welt, unser ganzes System läuft nur über Gewalt.
Aber du hast ja hier eine Welt klar in deiner Familie. Da bist du doch ein ganz starker...
Hör mal, entschuldige mal bitte, Helga.
Aber Gewalt oder
du bist aber nicht mit deinen Kindern auf einer einsamen Insel. Sondern die werden von so viel äußeren Einflüssen jeden Tag überschüttet. Glaubst du, dass das keine Wirkung auf die Kinder hat? Und letzten Endes haben sie ja gesehen, wo ich mit Gewaltlosigkeit hingekommen bin. Nämlich nirgends. Richard hat mir was in die Klappe gehauen, dass ich halb tot lag im Krankenhaus und damit war das Spiel gelaufen. Ich habe verloren. Ich bin heute halb krank. Ich bin heute krank und im Eimer. Das Spiel war gelaufen.
Et tout de suite une deuxième scène.
Du kannst es nicht. Du kannst nicht permanent im Clinch sein mit den Kindern. Und du kannst nicht permanent dich mit denen auseinandersetzen. Und quatschen, bis dir die Bombe raucht, Bitch, und es kommt nichts dabei raus.
Aber du wolltest doch liebevoll sein.
Bin ich doch! Das ist auch eine Form von Liebe, Mensch! Ja! Mensch, hör auf!
Das ist doch, was ich versuche rauszukriegen.
Meinst du, das ist keine Liebe, wenn ich mal Krapier an mir plage, um dir auf den vernünftigen Weg zu bringen? Wenn ich dir kaum ihren faschistischen Schweinehund aufregen will? Meinst du, das ist keine Liebe?
Vous riez, mais en réalité, ça a été beaucoup critiqué, toutes ces scènes, le côté voyeuriste, parce qu'elle continue à filmer alors que la mère est dans une souffrance atroce et raconte... il y a eu beaucoup de critiques aussi. C'est un film qui a laissé couler beaucoup d'encre. Et donc, ces deux scènes sont d'autant plus violentes pour le spectateur que la mère est filmée en regard caméra, donc plan rapproché dans la première scène, puis plan d'ensemble, et s'adresse à la réalisatrice qu'elle prend à partie, vous avez vu, et qui répond parfois. Et le spectateur se sent lui aussi pris à partie, et le malaise de ses récits intimes se fait d'autant plus ressentir. Alors peut-être très rapidement une dernière scène où elle parle de la difficulté de trouver un travail à son âge, donc proche des débats féministes de l'époque.
Ich wollte im vergangenen Jahr bei Quelle arbeiten wieder. Immer wenigstens irgendwas zu tun. Ja, weißt du, was sie mir da gesagt haben? Ich habe einen Bewerbungsbogen ausgefüllt, richtig schön. Und dann musste ich reinschreiben, sind sie voll arbeitsfähig oder sind sie schwer beschädigt oder sowas. So. Weißt du, was der Typ mir gesagt hat? Der hat den Bewerbungsbogen ganz prima gefunden, bis er an die Stelle kam. Und dann hat er glattweg zu mir gesagt, also, naja, nee, also wissen Sie, so, das, nee, sagte, das hat für Sie gar keinen Zweck mehr. Erstens mal so jung, nee, sagte, und wenn, außerdem auch schwer beschädigt, sagte, Sie können die Arbeit ja gar nicht leisten. Ich rate Ihnen zu Ihrem eigenen Besten. So, es gibt ja so viele junge, gesunde Kräfte. Klar, das wird die bevorzugen. Dann stehst du da, weißt du, dann hast du also entweder eine Stinkwut oder du bist wahnsinnig traurig.
J'aimerais citer Marguerite Duras, qui a été fascinée par ce film à sa sortie en France et souligne l'idée du dévoilement de l'intime par la caméra. Donc je lis la citation. « Tout ce qui arrive à cette femme est courant, volonté d'aimer, inaptitude tragique à exprimer cet amour, le tout plongé dans une nuit, dans un silence quasi total. Cela se passe dans l'épaisseur allemande, dans ce prolétariat malvenu de l'Allemagne d'après-guerre. Ce que je veux dire, c'est que rien n'arrive dans ce film excepté le cinéma, l'explosion fabuleuse de ce silence grâce à la caméra, la traduction par cette femme Irène de ce silence en un langage qui n'est jamais concerté, qui est découvert sous la caméra, comme on dirait sous l'effet d'une drogue. On dit ici sous l'effet de la prise de vue ou de la prise de son. » Donc ces deux films montrent bien un quotidien en crise par le processus de la répétition sans fin chez Mikesh, par le récit de la souffrance du quotidien chez Reidemeister. Les deux films, cependant, veulent aller au-delà du quotidien, proposer une échappatoire. Chez Mikesh, sortir du quotidien s'exprime d'une part à travers la mise en scène de rêves, de fantasmes, qui sont les rêves réels de la mère, en fait, et de la fille, à qui la réalisatrice donne corps. Elle rêve notamment que sa fille est danseuse. Le film introduit, donc je vais vous montrer un extrait sur ses rêves aussi, pour vous montrer un peu la mise en scène des rêves. Le film introduit d'abord un titre qui dit donc « La mère aimerait que sa fille soit danseuse comme Marika Ruck ou Carmen Jones du film, deux danseuses de l'époque. » Et à ce titre fait suite une scénette de danse. Voilà, donc une scénette stylisée, très mise en scène, ce dont témoigne l'utilisation du noir et blanc, du montage haché, des jeux d'ombre et de lumière, qui souligne la dimension de spectacle, tout comme le fait que Carmen, donc la fille ici, regarde la caméra, et donc son public. Donc toutes ces scènes de rêve, donc, elles font écho aux scènes du quotidien. C'est vraiment un mélange entre ces deux types de scènes. La mère rêve aussi d'exotisme, de Hawaï notamment, et de voyages lointains qu'elle visite à travers des magazines. En fait, la mère a été quittée par un homme qui venait d'Hawaï, un soldat après la Deuxième Guerre mondiale qui venait d'Hawaï, qui a eu deux enfants avec elle et qui est parti. Donc voilà, donc sur les rêves d'Hawaï, rapidement. Voilà, donc des images typiques de l'exotisme à cette époque. Donc une autre façon de sortir de la vie quotidienne chez Mikesh, c'est de décaler les gestes répétitifs du quotidien. Et la fille les transgresse à plusieurs reprises en jouant, par exemple, avec la mousse de la vaisselle dans cette scène. Sortir Irène de son quotidien, donc Irène, c'est la protagoniste, l'autre, hein, vous savez, qui parlait de ses enfants, donc chez Reidemeister. C'est l'objectif du film de Reidemeister. Elle espérait, tout comme Irène, sa protagoniste, que le film aurait un effet politique sur la vie d'Irène, aurait un effet, transformerait ce quotidien. Et ce projet donc, de Reidemeister s'inscrit dans un contexte particulier qui est assez intéressant. Dans les années 70, un groupe de chercheurs et de jeunes réalisateurs marxistes s'installe au Märkisches Viertel, donc dans ce quartier de banlieue de Berlin, parce que c'était un quartier dont on parlait beaucoup dans la presse à ce moment-là à cause des mauvaises conditions de vie. Et ces réalisateurs souhaitaient alors mener des combats sociaux grâce à leurs films et se sont mis à tourner des films avec l'objectif qu'ils soient opératifs. Donc qu'ils aient vraiment, qu'ils entraînent une action politique directe. Et la grande idée, c'était de supprimer toute idée de classe et tout rapport de pouvoir entre réalisateurs et personnes filmées. Et donc, chez Rademacher, ça s'exprime concrètement par un travail commun à tous les stades du film. Argent commun, montage commun. Irène aide Helga à choisir les scènes gardées à la fin. C'était important pour Helga qu'Irène soit sujet du film et pas objet. Mais malgré cette volonté politique de changement, selon Irène, la protagoniste, et selon Helga, la réalisatrice, le film n'a eu aucune réelle action politique ou effet. Quelques années après le film, dans une interview, Irène Rakovics, critique, dira que Helga n'a pas aidé, que l'idée de dépasser un antagonisme de classe par un travail commun était illusoire, tout comme l'idée que le film aurait pu apporter une amélioration. Et la réalisatrice reconnaîtra aussi cet échec en disant que Irène est restée un cas social. Donc Irène meurt quelques années plus tard alors que Helga s'établit en tant que réalisatrice. Donc rapidement, quelques mots de conclusion. J'ai essayé de montrer donc comment Elfie Mikesh et Helga Rademacher tentaient, avec un regard d'artiste mais aussi de sociologue, de faire le portrait de deux femmes de la classe ouvrière ouest-allemande en rentrant dans leur intimité et en leur donnant la parole. C'est un portrait donc, qui se fait par une mise en scène et un récit de la vie quotidienne en crise, fondé sur la répétition chez Mikesh, donc des mêmes plans, d'un corps qui reproduit les mêmes actions comme un automate, fondé sur des scènes de la vie quotidienne chez Rademacher dans lesquelles la caméra permet un dévoilement par la parole, de soi par la parole. Dans les deux cas, donc, il s'agit de films où l'existence en crise de ces femmes est saisie par le spectateur à travers une accumulation de scènes du quotidien, de souffrance du quotidien dans des films collages qui met bout à bout toutes ces scènes du quotidien et ce qui crée un certain malaise. Et ils rejettent tous les deux une narration linéaire. C'est un portrait teinté donc, d'une critique, on l'a vu, féministe, en mettant au premier plan la cuisine, le ménage ou des réflexions sur l'amour maternel ou le travail des femmes, et critique marxiste avec une critique de l'aliénation de la classe ouvrière liée à la monotonie de la vie quotidienne. Et donc, pour dépasser cette vie quotidienne en crise, Mikesh met en scène des rêves et Rademacher espérait que le film aurait un effet politique. J'aimerais juste finir sur une dernière remarque. À l'époque, en France et aux États-Unis, plusieurs critiques de cinéma soulignent que les films des réalisatrices ouest-allemandes sont particulièrement agressifs et véhéments. Rademacher, est interviewée à ce sujet avec deux autres réalisatrices, et l'une d'entre elles répondra que la véhémence a beaucoup à voir avec l'histoire allemande et au fait que cette nouvelle génération de réalisatrices d'après-guerre n'avait pas d'autre choix que de faire des films agressifs, de s'opposer à la génération de leurs parents issus de la guerre et du nazisme et conservatrices socialement pour imposer des idées nouvelles.
Merci beaucoup, Jan.
Juste une question sur la réception. Est-ce que c'était diffusé au cinéma ou parce que vous avez montré il y a eu un public et est-ce que vous savez comment il était reçu là?
Ça reste des films, oui, à tout petit public. Le film de Rademacher, il a été diffusé dans des festivals en Allemagne, mais aussi en France, aux États-Unis, et il a eu plusieurs prix. Enfin, il a été très, à l'époque, très... Oui, oui c'est ça. L'autre, moins, à ma connaissance.
Et j'ai une autre question. On les voit beaucoup, du coup, dans les appartements, mais est-ce qu'on voit, on les voit dehors dans les ensembles
Un peu. Pas... Moi, je voulais plutôt travailler sur l'extérieur, donc malheureusement, pas assez. Donc, il y a plus de scènes d'intérieur, mais oui, il y a aussi certaines scènes d'extérieur. Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a quelques films sur le quotidien, donc dans les grands ensembles côté français, mais il n'y a pas eu de femmes réalisatrices qui ont eu un engagement féministe autour de ces sujets. Non. Alors, un grand modèle, c'est Chantal Akerman et son film Jeanne Dillemain, peut-être que vous connaissez, et donc qui filme le quotidien d'une femme, mais c'est à Bruxelles, donc voilà. Mais c'est un modèle par rapport à raconter le quotidien, filmer le quotidien... Mais non, pas de femmes françaises, j'ai cherché, mais... Donc c'est vraiment une spécificité ouest-allemande. Et il y a beaucoup de réalisatrices ouest-allemandes dans ces années très politisées. Il y a un lien entre féminisme et cinéma aussi. Il y a beaucoup de femmes qui passent, engagées dans la lutte féministe, qui passent au cinéma pour faire des films politiques.
Et j'ai été moi aussi confrontée
mon travail à l'écriture du quotidien ou à la question de comment représenter le quotidien. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir comment le cinéma est peut-être mieux armé finalement que la littérature pour rendre ça. Parce que moi aussi, j'ai dû me poser la question de la linéarité, la narration, comment est-ce qu'on écrit le quotidien qui est par définition rétif au récit, puisque c'est la répétition du même. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir, en plus, les deux façons, enfin avec les deux réalisatrices, comment il y a deux façons très différentes d'exprimer cette répétition des gestes et de la rendre visible, en fait, et de la rendre objet de regard.
En tout cas, oui, un lien entre les deux, j'ai l'impression que c'est un refus d'une intrigue linéaire et un quotidien qui est formé de plein de petits bouts du quotidien et qui reviennent en plus. Hein, donc.
Et la travestie, du coup, c'est vraiment le quotidien qui est donné à voir et non pas. Il n'y a pas d'alibi d'intrigue qui est loué, donc il est rendu très, dans sa force brutale.
Il y a quand même des films qui parlent du quotidien côté français. Je voulais au début dans ce travail comparer Mikesh et un film de Godard sur la banlieue. Deux ou trois choses que je sais d'elle, peut-être que vous connaissez. Mais je me suis dit que c'était intéressant de garder deux femmes allemandes. Ce qu'il n'y a pas côté français, c'est ces réalisatrices en fait. Mais il y a quand même des films sur le quotidien. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, j'ai trouvé même fou qu'il y en ait autant du côté allemand, parce qu'il y a encore d'autres films. J'ai choisi de m'arrêter sur ces deux, et aucun côté français.
Juste, pardon, une autre question. Est-ce qu'on les voit justement plus dans une dimension plus collective, puisque c'est aussi un peu ce dont on a parlé ce matin, cet antagonisme. Est-ce qu'elles sont prises dans des réseaux d'amitié, même, ou de voisinage
Alors, dans ces deux films-là, pas du tout, mais je crois que c'est montré dans d'autres. On pourra en parler justement dans ce groupe de réalisateurs qui ont filmé le Meakish at Seattle. Il y avait beaucoup de projets autour de projets associatifs. Et là, je crois qu'il y a des films, mais je n'ai pas encore tout vu.
Autant en France, il n'y a pas d'ancrage sur une revendication féministe portée par des femmes, etc. Autant je trouve que les récits cinématographiques sur la banlieue portent malgré tout un message politique. Donc je pense à des films, je ne sais pas, mais plutôt sur des messages politiques qui tendent à déconstruire les logiques racistes. Voilà. C'est plus ça finalement le credo emprunté par la cinématographie française pour parler de la banlieue, c'était pour déconstruire hein, les fantasmes véhiculés entre autres par l'extrême droite sur la violence des jeunes de quartier issus de l'immigration. Enfin, je pense au film de Kassovitz, par exemple. Hein,
oui.
Donc il y a malgré tout un positionnement de politique, on n'est pas sur le segment féminin.
Oui. Voilà, donc, tout à fait.
Peut-être
oui.
que cette question de la politisation dans le champ du cinéma exprimée à travers le fait de filmer la quotidienneté dans les grands ensembles, peut-être que voilà, il y a quelque chose à tisser là.
Oui, non, tout à fait. Dans mes années, là, puisque donc, je travaille sur les années 60 et 70, les films français, ils sont très marxistes, très marxistes. Et allemands, donc là, c'est les deux, féministes et marxistes. Et d'ailleurs, les féminismes se séparent des marxistes en Allemagne de l'Ouest à l'époque, qui ne sont pas féministes. Enfin, il y a plein de tensions. Oui.